La foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation des choses qu'on ne voit pas.
Je vous invite à vous asseoir et à lire la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 14 et à partir du verset 6.
Ensuite, je vis un autre ange volant au zénith. Il avait une bonne nouvelle éternelle à annoncer à tous les habitants de la terre, à toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple. Il criait d'une voix forte. Révérez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure a sonné et il va rendre son jugement. Adorez donc celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources. Un second ange le suivit, disant : Elle est tombée, la grande Babylone est tombée, celle qui a fait boire à toutes les nations le vin de sa furieuse prostitution. Un troisième ange les suivit, proclamant d'une voix forte : Celui qui adore la bête et son image et qui accepte de recevoir sa marque sur le front et sur la main, devra aussi boire du vin de la fureur de Dieu. Ce vin lui sera versé, pur dans la coupe de la colère divine, et il souffrira des tourments dans le feu, et il le souffre devant les saints anges et devant l'agneau. La fumée de leurs tourments s'élèvera à perpétuité. Quiconque adore la bête et son image, quiconque accepte la marque de son nom, ne connaîtra aucun repos, ni de jour, ni de nuit. C'est là que les membres du peuple de Dieu, ceux qui obéissent au commandement de Dieu et vivent selon la foi en Jésus, doivent faire preuve d'endurance. Amen.
Bonjour à tous. Bonjour aux amis visiteurs. Bonjour aux membres d'église. Bonjour à tous. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai la joie ce matin d'ouvrir la semaine de prière mondiale qui a pour titre « Vivre dans l'attente ». Vivre dans la bienheureuse espérance du réveil et de la seconde venue du Christ. Vivre dans l'attente, l'attente du réveil et de la seconde venue du Christ. Vivre dans la bienheureuse espérance. C'est notre destinée en tant qu'adventiste du septième jour. Alors, vous savez, le premier message, généralement, c'est un sermon. La preuve, et il est rédigé pour l'Église mondiale par le président de l'Église adventiste, donc à savoir le frère Ted Wilson. Alors, bien sûr, je ne vais pas lire son texte, ça n'a pas d'intérêt. Il l'a signé, donc il est heureux de pouvoir rappeler l'importance de cette mission qui nous est confiée de proclamer le message des trois anges. Et son sermon a pour titre « La puissance nécessaire pour achever l'œuvre ». Donc je dis bien, vous lirez le fichier PDF que vous avez reçu, ou sinon, pour les autres, vous viendrez me voir et vous obtiendrez une revue. Pour ma part, j'ai donné un titre différent, parce que je ne vais pas refaire ce matin le sermon de notre frère Ted Wilson, mais bien sûr, je m'en suis inspiré. En tout cas, le texte de référence est le même. Le titre que j'ai choisi, vous le connaissez peut-être. Ah, il y en a qui ont lu le BIM, ou qui l'ont justement sous les yeux. Puissance 4. Il y a un problème là. Message des trois anges, pourquoi il dit puissance 4, parce qu'il me semble qu'il y a un quatrième ange, quelque part. Pour ceux qui sont familiarisés avec la prophétie, avec l'Apocalypse, eh bien, il y a une évidence, c'est qu'un quatrième ange intervient au chapitre 18. Vous êtes bien d'accord ? Chapitre 18, le quatrième ange intervient, et nous pouvons lire ensemble à partir du verset 1er. C'est encore un ange qui vole au milieu du ciel, qui descend pour venir à nous avec un message. Le voici. Donc, il avait une grande autorité, cet ange. La terre fut éclairée de sa gloire et cria d'une voix forte, disant « elle est tombée, Babylone la grande ». Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche, que les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. » Il y a donc bien un quatrième ange, avec un quatrième message. C'est vrai que c'est une reprise du second message. C'est pourquoi, généralement, nous résumons ces quatre messages en parlant des trois messages. Les trois messages des trois anges d'Apocalypse 14. Mais il y a bien un quatrième. Et que vient apporter ce quatrième message? C'est un complément d'information au deuxième message. Alors, mon but, ce n'est pas ce matin d'en faire une étude, mais c'est de montrer qu'à un moment donné, le second message va, d'une certaine façon, passer à un stade supérieur. Le second message, il est dit au chapitre 14 et au chapitre 18, il est crié. On est d'accord? Voilà la différence. Alors, pourquoi ce titre puissance 4? Je ne suis pas subversif. Non. Mais il y a bien quatre anges qui entrent dans cette dynamique. Et puis, j'ai voulu faire une allusion à un jeu que vous connaissez bien, à un jeu de stratégie, qui se nomme justement Puissance 4. Et quel est le but de ce jeu? Pour ceux qui connaissent, c'est d'aligner quatre jetons. On est bien d'accord? Il y a deux joueurs, il y en a un qui donc manipule les jetons jaunes et l'autre manipule les jetons rouges. Les deux se font face, ils disposent d'une grille, et chacun va chercher à en aligner quatre. C'est un jeu de stratégie. L'idée que je retire de cela, c'est que, on peut dire que d'une certaine façon, l'Église adventiste est entrée dans un jeu, ou plus exactement, une guerre de stratégie, où d'un côté, il est demandé de prêcher le message des trois anges, le quatrième venant amplifier celui du second, on est d'accord? Et de l'autre côté, tout est fait pour empêcher cette proclamation. Alors, le premier point que je souhaiterais poser, c'est qu'il y a une question de stratégie. Allons dire de stratégie, est-ce que c'est évident que l'Église adventiste doive entrer dans cette guerre médiatique, doive combattre des ennemis a priori invisibles en cherchant justement à obtenir l'adhésion du plus grand nombre, si possible le monde entier, à ce message? Ce triple ou quadruple message, comme vous voudrez. Restons souples dans notre esprit. Alors, il y a bien trois anges qui interviennent, et non pas trois êtres humains. Cela nous dit une chose, 3 plus 1, donc 4, cela nous dit une chose, c'est que, de toute façon, ce message sera prêché. C'est une première chose. De toute façon, ce message sera prêché puisque Dieu a dépêché trois anges et un quatrième qui va se charger donc d'amplifier le message du second ange. Donc ce message sera de toute façon prêché, que cela nous plaise ou non, que nous le voulions ou non. Ce message sera prêché aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il le sera. L'intervention de ces anges, de ces êtres célestes, prouve que ces messages feront le tour du monde et que c'est donc la volonté de Dieu qu'il en soit ainsi. Ce sont les envoyés de Dieu. et ils accomplissent leur mission. Mais vous allez me dire, on a toujours compris que c'était à nous, l'Église adventiste, de relayer ce message sur la terre. Certainement. Puisque le verset 12, qui vient conclure ce passage d'Apocalypse 14, dit bien, c'est ici la persévérance des saints qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Qui sont ces gens? Que font-ils là? Pourquoi parler d'eux juste après avoir donné, offert cette vision des trois anges et de leur proclamation? Surprenante, n'est-ce pas? Eh bien, certainement que ces saints, saints par la foi, saints dans leur attachement à Christ, saints par leur piété, comme l'étaient les membres de l'Épître de Corinthiens, n'est-ce pas? Les membres de l'Église de Corinthe, dont il est question dans l'Épître aux Corinthiens, ils étaient saints par leur foi en Jésus-Christ. Et bien ces gens-là se distinguent en gardant les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et ils sont associés à la proclamation. Et historiquement, l'Église adventiste s'est reconnue dans ce groupe. Je ne dis pas d'hérésie. Donc, l'Église adventiste s'est reconnue dans ce groupe. Et ceci depuis qu'elle existe. Peut-être même avant qu'elle se soit donnée le nom Église adventiste du septième jour. Moi, je crois une chose. C'est que il est impossible à l'Église adventiste de ne pas prêcher ce message. Qu'elle le veuille ou non. Alors, si, mettez-vous à la place de Dieu, c'est un peu risqué, je le reconnais, mais au jour d'aujourd'hui, vous avez ce message à transmettre à la terre entière, d'accord? Supposons, vous voulez faire passer ce message, en tout cas c'est dit là, il est destiné à toute tribu, toute langue, tout peuple. Et bien sûr, il est placé dans le contexte de l'Évangile. L'Apocalypse est une continuation des évangiles et des épîtres. L'Apocalypse fait partie du Nouveau Testament, fait partie de la Bible. Donc on est dans un contexte, évidemment. Pas rappeler tout le contexte ici, ce n'est pas mon sujet. C'est donc par la volonté de Dieu que ces messages doivent être proclamés. Mais s'il doit faire appel au jour d'aujourd'hui, à une église, n'importe laquelle, disons, il y en a énormément sur terre. Je parle de dénomination. Je ne parle pas de l'église chrétienne en général, je parle de dénomination. Chrétienne, bien sûr, puisque ce sont des gens qui adhèrent à Jésus-Christ, qui ont foi dans le ressuscité. Alors, vous êtes Dieu, et au jour d'aujourd'hui, vous dites, bon, ce message-là, je peux le transmettre par des anges, mais je voudrais que les hommes collaborent à sa transmission. Je voudrais que des hommes proclament aussi ce message. Je voudrais faire participer une église aussi large que possible, aussi ouverte que possible à cette proclamation. Donc, s'il devait faire un choix aujourd'hui, à quelle église ferait-il appel? On peut se poser la question. À quelle église ferait-il appel? Puisqu'il a trois messages à faire passer. Le premier message, c'est un appel à l'adoration du Dieu juge et créateur-législateur. Un appel à l'adoration du Dieu juge et créateur-législateur. Donc, adoration de celui qui est à l'origine des lois physiques, mentales et sociales. Ce que j'appellerais les lois créationnelles. Il le dit lui-même en Jérémie 33, verset 25, « C'est moi qui ai établi les lois des cieux et de la terre. » Et dans le psaume 148, verset 6, l'auteur inspiré écrit « Il a donné des lois en parlant de Dieu, il ne les violera pas. » Et donc, cet appel à l'adoration du Dieu juge et créateur-législateur est en fait un appel à l'adoration du Dieu seul sauveur. Parce que dire qu'il est juge et créateur, c'est dire que lui seul peut sauver. C'est très important. C'est-à-dire qu'on est dans un contexte où le salut de l'humanité est en jeu. Ou on va le dire autrement avec des mots modernes, la survie de l'espèce humaine est en jeu sur Terre. Ésaïe 33, verset 22, l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi. Et la conclusion, c'est quoi? S'il est notre juge, s'il est notre législateur, la conclusion, c'est lui qui nous sauve. C'est écrit dans le texte. Il est notre juge, il est notre législateur, c'est lui qui nous sauve. Donc celui qui est présenté là, c'est le Dieu sauveur. À travers ses fonctions, j'allais dire, de créateur, d'inventeur de la race humaine, et ses fonctions de juge, juge de l'humain, de l'homme. Et puis j'avais un autre texte dans le Nouveau Testament qu'il confirme dans Jacques chapitre 4 verset 12. Un seul, Jacques 4, 12, un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Quand Dieu a créé le monde, qu'est-ce qu'il a créé en même temps? Des lois, mais quantité de lois auxquelles nous sommes tous soumis. Et je le rappelle, ce sont des lois à la fois physiques, mentales et sociales. On peut en rajouter les lois morales bien sûr. Mais dans les lois sociales, on inclut les lois morales. Vous savez qu'aujourd'hui, l'OMS définit la santé comme étant une santé sur ces trois plans-là, le physique, le mental et le social. Et dans le social, vous pouvez intégrer la moralité, l'éthique, la spiritualité, parce qu'on est dans le domaine de la relation sociale. Et on fait du social aussi quand on est en relation avec Dieu, ou plutôt Dieu fait du social avec nous. D'accord ? Le social, c'est du relationnel, au sens large. Il y a la société céleste et il y a la société terrestre. Bien, donc premier message, un appel à l'adoration du Sauveur. Or, pour sauver, il doit juger et créer à nouveau. Il ne va pas réparer ce monde, nous le savons, il va le renouveler. Donc il faut un créateur. Deuxième message, je ne vais pas m'étendre, mais c'est une prophétie, le deuxième message. Et une sorte de, d'annonce de la victoire. La victoire est anticipée. La victoire contre un système oppressif, Babylone, associé au roi de la terre. Voilà ce que dit le texte. Le deuxième message annonce la fin des royaumes de ce monde, mais on est en cohérence avec la parole de Dieu, avec les Écritures, Daniel chapitre 2, déjà, à travers la vision du colosse au pied d'argile, annonce la fin des royaumes de ce monde. Donc le deuxième message dit, le système mondial corrompu qui se met en place va péricliter. C'est ce qu'on appelle un parfait prophétique qui est utilisé ici, elle est tombée. C'est-à-dire qu'on a l'assurance que cette énorme organisation tombera. C'est tous ceux qui se mettent du côté du Créateur, Juge et Sauveur. Donc oui, ce monde passera. Voilà ce que dit le deuxième message. Et tous ceux qui dans ce monde s'opposent à Dieu seront écartés de son chemin, il reviendra. Et le troisième message, alors, c'est de plus en plus délicat à manipuler, c'est un avertissement. Alors, chaque fois qu'il y a un avertissement, je crois qu'il y a un désir de sauver, on est toujours dans un objectif de salut. Si on avertit quelqu'un, c'est parce qu'on lui veut du bien. C'est pour sauver qu'on avertit, c'est pas pour condamner. On veut pas le malheur de celui que l'on avertit. On veut qu'il s'en sorte. On veut son bien. La première fois que Dieu a averti l'humanité, c'était avant le péché de l'homme. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ça ressemble, hein, en d'autres termes, à notre contexte. Mais si tu en manges, Là, le texte dit, si tu reçois la marque, tu mourras. Et l'avertissement est bien une preuve de la bonté de Dieu. Moi, j'ai de la reconnaissance lorsqu'on m'avertit d'un danger. Quand vous roulez, vous circulez sur la route, on vous fait des appels de phare pour vous signaler qu'il y a des policiers qui attendent vos prochains carrefours. Vous faites un petit coucou pour dire merci. Vous êtes soulagé. Vous ralentissez, vous voyez qu'il y a la ceinture, les enfants aussi. Si ce n'est pas le cas, n'est-ce pas ? Merci, c'est un merci. Mais si vous ne tenez pas compte de l'avertissement, tac, tac, vous arrivez avec votre portable et pas la ceinture, et puis vous roulez sur, vous dépassez la ligne blanche, vous attend une déconvenue. Bien. Donc voilà ces trois messages. Le premier qui nous rappelle qui est Dieu. Dieu est celui qui nous a créés et c'est le seul qui peut nous sauver. Il est le Père de l'humanité. Et le salut de l'humanité lui appartient. Pour ça, il faudra un jugement, parce que l'être humain est un être moral qui doit répondre de ses actes. Bon. Ce monde passera, c'est le deuxième message. Ce monde passera, et tous ceux qui voudront s'opposer au projet de Dieu passeront. Ils chuteront. Par leur propre faute, par leur propre péché, par leur propre endurcissement. Et puis finalement, un avertissement pour dire attention, attention, ne transgressez pas les commandements de Dieu. C'est ça l'avertissement. Chaque fois qu'il y a un avertissement, c'est parce qu'il y a une loi. On retombe sur le premier message. C'est parce qu'il y a une loi. Bien d'accord ? Si je suis dans le cas, dans les limites autorisées par la loi, je n'ai pas besoin qu'on m'avertisse. Mais si je transgresse la loi, ou si je suis supposé la transgresser, alors là, on me fait signe, on m'avertit, à condition de vouloir mon bien, bien sûr. Sinon, il dit, tant pis pour lui, hein. Il n'avait qu'à faire attention. Oui, il y a là un avertissement, mais cet avertissement, quelque part, il fait écho à celui que Adam et Ève, nos premiers parents, ont entendu dans le jardin. Dans ce lieu idéal que Dieu avait créé pour l'être humain. Il a entendu cet avertissement. Le jour où tu en mangeras, le jour où tu transgresseras la loi que je t'ai donnée, une loi de confiance en fait, eh bien, tu mourras, certainement. Okay. Donc, j'en arrive à la conclusion suivante. C'est que là, cet avertissement est en rapport avec une loi que Dieu a donnée et qui risque d'être transgressé par ceux qui sont prêts à accepter une marque, okay, un signe. Le troisième message, un avertissement. Et donc ces trois messages, avec celui que va proclamer le quatrième ange, qui développe et amplifie le message du deuxième ange, donc on l'entend au chapitre 18, et bien ces trois messages, éventuellement quatre, font partie de l'ADN de l'adventisme. Je n'ai pas le temps ici de vous raconter l'histoire du développement de l'Église, mais dès le départ, elle s'est sentie interpellée par sa situation historique, par sa situation théologique, dès le départ. Pourquoi Dieu nous a-t-il révélé ces choses ? Pourquoi sommes-nous ici ? Pourquoi avons-nous été choisis ? C'est difficile à dire ça. Par Dieu, pour accomplir une telle mission, difficile de surcroît, périlleuse s'il en est une. Oui, je crois que ces messages font partie dès le départ de l'ADN de l'adventisme. On pourrait dire qu'ils nous collent à la peau. Lisez. Hein ? J'ai lu aussi les dernières revues adressées aux anciens. En anglais. Ça porte aussi sur ce sujet, on y revient régulièrement, on l'approfondit, on l'éclaire. Il y a même un article très intéressant, comment prêcher dans le cadre des messages des trois anges. J'ai jamais réfléchi à cela, où un théologien homilétitien se penche sur cette question. Qu'est-ce qu'une prédication adventiste ? dans quel cadre de référence se situe la prédication adventiste. Et il développe justement cette approche. Il dit que la prédication adventiste se situe dans le cadre de la proclamation du message des trois anges. Bon, surprenant, mais très intéressant. Parce qu'il ne s'arrête pas au contenu, mais à la dynamique. Pas le contenu, mais la dynamique. La certitude que Jésus revient, l'autorité qui est donnée à ceux qui parlent en son nom, le sens de l'urgence, et puis bien sûr, la nécessité que ce message soit prêché sur tous les continents, jusqu'aux coins les plus reculés de la terre. Et cela aussi se produira que nous le voulions ou non. Jésus a dit, si vous vous taisez, les pierres crieront. Et si les pierres se taisent, les anges viendront du ciel. Je reviens à mon idée de départ. Donc la proclamation de ces messages définit la nature de l'adventisme. Elle nous est imposée. J'ai envie de dire, mais j'ai pas le choix, moi. On me laisse pas le choix, c'est plus fort. C'est au-delà de ma personne, au-delà de mes idées, au-delà de mon positionnement personnel. Ça me dépasse. La plupart d'entre nous, et peut-être moi le premier, voudraient échapper à ce devoir, si on peut l'appeler un devoir. J'entends souvent parler des devoirs à la maison. J'ai des enfants qui font tous les jours leurs devoirs. Et je veille à ce qu'ils soient bien faits, les devoirs. Mais j'ai aussi envie d'y échapper. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire de ça ? Apocalypse, chapitre 14, puis si je commence à la lecture en verset 9, aïe, 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 qu'est-ce que je vais faire de ça ? Et comme Jonas, j'ai envie de faire demi-tour, d'aller à l'autre bout du monde, me perdre, me faire oublier par le Seigneur, entre, vous savez, Ninive et Tarsis, des milliers de kilomètres, c'est diamétralement opposé sur la map monde. Et j'ai envie de disparaître. C'est là qu'intervient, je reviens à ça, cette loi, cette dynamique de la confiance. Le Seigneur dit, attends, t'affole pas. Il y a une façon de dire les choses, il y a une façon de vivre, il y a une façon de partager, il y a une façon d'être dans mon projet. Ça ne se fait pas n'importe comment. Et là, je rejoins l'apôtre Paul, après avoir rejoint Jonas dans sa fuite. Vous savez, Jésus a été le repêché, il a été repêché par le Christ. Et finalement, il a dû, bon gré mal gré, prêcher ce message qui ressemble un petit peu à ce qu'on vient de lire dans l'Apocalypse. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Bon, d'accord, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là encore, Dieu est intervenu. Miracle! Les gens ont entendu le message et 120 000 âmes ont été sauvées. Sans compter les animaux, ajoute l'auteur du livre de Jonas. Donc c'est dire que Dieu a pu faire beaucoup de bien à travers ce message rude, en apparence, mais qui était là pour le bien de toute une population urbaine. Et l'apôtre Paul, lui, dira, si j'annonce l'évangile, puisqu'on est dans le cadre de l'évangile, avec une accentuation particulière, on pourrait dire moderne, ou hyper moderne, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire si j'annonce l'évangile, car la nécessité m'en est imposée. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Si je le fais malgré moi, c'est une charge. C'est un devoir, oikodomia littéralement. Donc ça m'est imposé, je dois le faire. Et avant lui, c'était Nahum, c'était Habacuc. Ils commencent leur livre en disant... Alors, vous lisez dans mon Bible, proclamation, sentence, prophétie, oracle, différentes traductions. Nahum commence en écrivant oracle sur Ninive, dans la version second, révisée en 79. Oracle sur Ninive. Mais en réalité, le vrai mot, c'est massa. Massa, c'est charge. Ça pèse lourd. Et ça pèse d'abord lourd sur les épaules du prophète, parce que ce message-là, il est ardu, comme celui du prophète Jérémie. Pas facile. Que faire avec un tel message? Ben c'est une charge. Et je dois proclamer ce message. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Si je le fais malgré moi, c'est une charge. Mais au moins, je le fais. Et je crois, je suis baptisé depuis un bon nombre d'années, j'ai entendu des messages, des prédications, j'en ai lu des articles, j'ai participé à des meetings de toutes sortes. des semaines de prière. Ben, Dieu a choisi l'Église adventiste pour prêcher ses messages à un monde comme celui que nous connaissons actuellement. Après avoir choisi en son temps Nahum, Habacuc, Jérémie, Ézéchiel et les autres prophètes pour prêcher un message de circonstance. Il a dit à Ézéchiel, « Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. » Effectivement, Ézéchiel aura la tâche, la charge d'avertir ses contemporains de la part de Dieu. Pensez pas que Dieu veut sauver nos contemporains. Vous ne pensez pas qu'il y a aujourd'hui un message d'urgence. Ça, c'est la dynamique. Dieu veut sauver. Il y a un message d'urgence. Il est en train de préparer son retour. Si le jugement a commencé, c'est parce que le retour est proche, de plus en plus proche. Ça nous semble long ? C'est prévu. Jésus l'a dit, il y aura un retard. Ça ne doit pas nous surprendre. Ah, 150 ans d'adventisme, 150 ans de proclamation, est-ce qu'on est vraiment dans le bon créneau, là ? On peut se poser la question. Mais continuer à suivre les actualités, rester éveillé, j'ai envie de dire. Garder une espérance vivante, pour reprendre le terme de l'apôtre Pierre. Notre espérance ne doit pas mourir parce que le temps a passé, mais elle doit rester vivante. 1 Pierre 1, verset 3. Nous avons été régénérés pour une espérance vivante. Donc mon premier point, c'est le suivant. Nous ne pouvons pas, en tant qu'adventistes, ne pas prêcher ce message. Même si nous ne le prêchons pas. J'avoue que je n'ai pas souvent, en tant que prédicateur, prêché sur ces trois messages. C'est peut-être même la première fois. Ça vous surprend ? Ça ne veut pas dire que je ne l'ai pas intégré dans ma vision de la prédication. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas abordé ce sujet dans des cercles bibliques, à l'occasion de l'étude de l'Apocalypse, à l'occasion des études privées, bien sûr, bien sûr. Mais pourquoi ? Parce qu'on a une certaine réticence à aborder ça, ce sujet-là, forcément. Mais on le prêche, ce triple message, à notre corps défendant. Parce que, tout simplement, nous sommes des adventistes du septième jour. C'est le nom de l'Église. En fait, les trois messages sont résumés là. Adventiste du septième jour. Quand vous dites « je suis un adventiste du septième jour », eh bien vous prêchez le message des trois anges. Ça vous rassure ? Certains disent « oh là, il va nous dire de prêcher ces messages, de les... » Surtout pas ! Mon intention n'est pas de vous dire forcément, quand je dis « surtout pas », attendez. Je ne dis pas « sortez d'ici, écrivez les messages sur un papier et distribuez-les à tout va à sortie de l'Église ». Ça risquerait fort d'être contre-productif. On est d'accord ? Dans un premier temps, ce que je dis, c'est que l'Église adventiste du septième jour, en tant qu'Église adventiste du septième jour, prêche ce message. Qui dit adventiste dit tourner vers le retour du Christ. Un adventiste annonce la seconde venue du Christ, même sans parler. Il annonce la résurrection sans parler. Il annonce le jugement dernier, sans maudire. Il annonce une nouvelle création. Toujours en tant qu'adventiste. Éventuellement, le sanctuaire céleste, en tout cas, il est centré dans sa position d'adventiste sur les prophéties et le temps de la fin. C'est une évidence. Et puis, il est adventiste du septième jour. Ça nous parle non pas là de la finalité du monde, mais de son origine. Et des lois qui soutiennent ce monde. Je le rappelle, physique, mental, social. Dans le social, j'inclus le spirituel, le relationnel. Le moral. Donc, septième jour, qui dit septième jour dit création, vous faites la connexion, et loi divine. Donc, 10 commandements. Vous savez que dans Genèse 1, c'est avec 10 paroles que Dieu a fait le monde. Très intéressant. Vous lisez Genèse 1, il y a précisément 10 fois Dieu dit. Petite allusion au passage. Donc, les lois sont déjà là, elles sont implicites. Donc, vous parlez des lois de Dieu, les 10 lois contenues dans le décalogue. Vous parlez d'évangile aussi, vous parlez de la foi de Jésus, quand vous parlez du septième jour, parce que Jésus a gardé le septième jour, il a dit « je suis le maître du sabbat ». Vous rééquilibrez là le rapport entre la foi et les œuvres, hein, sauver non pas par les œuvres mais pour faire le bien. Vous rééquilibrez le rapport entre justification et sanctification, entre grâce et vérité, La vérité nous est venue par Moïse, la grâce nous a été révélée par la parole de Dieu, Jean 1, etc. Alors, il dit, mais oui, c'est vrai. C'est si simple que ça. Il suffit d'être adventiste du septième jour. Oui, déjà. Il suffit d'être... Enfin, il suffit. Il dit, ça ne nous plaît pas trop, là. Il suffit. Comment proclamer? Alors, si l'Église adventiste ne peut pas ne pas proclamer le message des trois anges, comment le proclamer au mieux? Il suffit de dire, je suis adventiste, et de se taire. Parfois, il vaut mieux ça que de parler. Parce qu'on risque vite de s'embrouiller, de donner des explications qui risquent de ne pas être comprises en face. Le pire, c'est de parler de choses que l'autre ne comprend pas. D'accord? C'est de distribuer des textes que l'autre n'est pas en mesure de comprendre, de lire, d'entendre, d'intégrer. C'est pour ça que j'ai dit qu'il est dangereux d'utiliser cette méthode-là. J'imprime le texte tel qu'il est, je le donne aux gens qui passent, puis ils se retournent en disant « Mais qu'est-ce qu'il a voulu me dire avec ça ?» Parce qu'aucune connaissance du référentiel biblique, aucune notion justement de... La personnalité de Dieu, des qualités, des attributs divins. Voilà. Et donc, du coup, ça fait mal. C'est considéré comme obscur, illisible, menaçant, inquiétant. Et puis, la personne qui me l'a donné ne serait pas un peu fanatique, un peu... C'est dans une relation qu'on peut aller plus loin. C'est dans un cadre particulier qu'on peut éventuellement dire plus, si on a quelque chose à dire de plus. Sinon, il vaut mieux se taire. Comment proclamer ces messages aujourd'hui? Ben là, je vais être pragmatique, mais très simple. Multiplier le nombre d'adventistes du septième jour dans le monde. On est en plein dans la mission. Pas plus compliqué que ça. Alors, c'est pas compliqué, en même temps, ça l'est, parce que nous, on ne peut pas. On ne peut pas agir à la place de Dieu. C'est lui qui convertit les cœurs. C'est lui qui pilote les anges. Qui pilote l'Église des saints qui garde, à supposer qu'il le soit vraiment, les commandements de Dieu et la foi de Jésus. C'est lui qui pilote tout ça. C'est lui qui a donné ces textes. C'est lui qui nous donne aujourd'hui d'en parler et de les lire, en essayant d'en faire une bonne lecture, une lecture pertinente. Comment proclamer ces messages? Ben, en multipliant le nombre d'adventistes, et là j'ai envie d'ajouter quelque chose d'important, qui portent dignement leur nom. Ah oui, ça va peut-être de soi, mais bon, il n'y a rien de plus destructeur et, comment dire, dommageable à l'image de l'Église que les adventistes qui portent indignement ce nom, c'est-à-dire qui trahissent leur Seigneur, qui trahissent leur Maître, d'une façon ou d'une autre. Je ne vais pas entrer dans les détails, la Bible s'étend là-dessus. Et puis, j'ajouterai donc, notre Église est appelée à entrer dans la mission. Amen. Vous direz, elle l'est déjà. Amen deux fois. Hein? Mais je constate une chose, c'est que les bancs de cette Église sont régulièrement pleins et c'est très bien. C'est formidable, on s'en réjouit. Il y a des gens au sous-sol qui me suivent via l'écran interposé. Mais je pense que notre Église va atteindre un seuil où elle va forcément stagner. Et c'est pour ça que depuis un certain temps, on s'est mis sur une piste, la piste de la création d'une nouvelle église dans la région. Ça, c'est proclamer le message des trois anges. C'est se mettre en marche. C'est faire de nouveaux disciples qui vont à leur tour se réclamer du Christ, vont marcher de l'origine du monde vers sa finalité. Hein? Vont porter le nom d'adventiste du septième jour. Eh bien, je crois que cette semaine de prière est l'occasion, justement, pour nous repositionner en tant qu'Église en disant « Mais est-ce que nous prêchons ce message? Est-ce que nous sommes impliqués dans la mission? Et si oui, de quelle façon ?» Je crois que chacun peut prendre part à ce message, mais nous avons un projet bien spécifique, c'est celui-là. C'est le projet INEA, si vous voulez, implantation d'une nouvelle Église adventiste dans la région. Parce que la meilleure chose à faire, c'est de nous démultiplier. Nous n'avons pas intérêt à concentrer le nombre de membres dans cette chapelle. Nous avons intérêt à créer d'autres lieux de rencontre, sous différentes formes certainement, avec différents projets certainement aussi. Nous avons intérêt à nous démultiplier, à créer un vide ici pour que la mission puisse continuer et que ce vide puisse se remplir. Mais plus nous allons nous démultiplier et plus, eh bien, le message sera perçu, entendu, et partager. Alors ce que je demanderai maintenant, c'est au diacre de passer et de vous distribuer. Alors c'est un coupon, voilà, il a cette forme-là. Il y a un petit bout de notre logo dessus, avec les trois flammes. Et oui, ça fait partie de notre logo, message des trois anges. Vous avez la Bible, vous avez, et au cœur de la Bible, la croix du Christ, qui a donné sa vie pour les humains. Alors, écrit, voilà ce qui est écrit sur ce coupon. Je souhaite, alors, si ce n'est pas votre cas, vous n'êtes pas obligé de garder le coupon, vous passez à côté, à votre voisin, mais je souhaite prendre une part active dans le projet d'implantation d'une nouvelle église adventiste en Val-de-Seine, et je suis prêt à investir du temps et de l'énergie dans cette œuvre missionnaire. Inutile de garder ce coupon si vous ne vous sentez pas concerné, ou si pour des raisons de santé, vous ne pourrez pas. Dans ce cas-là, nous comptons sur vous pour des prières sincères, des prières ferventes dans ce sens, pour nous soutenir moralement. Mais nous voulons mettre en place une équipe qui va prendre à bras-le-corps ce projet. Je crois qu'il est sérieux et nous allons faire en sorte qu'il soit sérieux et qu'il se réalise à court terme, à moyen terme ou à long terme. Alors ce qui est intéressant, c'est lorsque j'étais pasteur de l'église de Lille, eh bien justement nous sommes entrés dans cette dynamique. Nous sommes arrivés à la conclusion que les bancs étaient pleins le samedi matin, on n'avait plus de place pour recevoir et on obligeait les gens à rester dans le couloir à l'extérieur. Ça vous fait mal au cœur. Vous dites, à quoi bon maintenant organiser des conférences, faire venir du monde? Il n'y a plus de place. Donc, il faut se démultiplier. Cela va de soi. C'est du bon sens. Il faut créer une nouvelle église. Et j'arrive ici, la situation est à peu près la même. Donc, je me dis que le Seigneur m'a préparé. Il a préparé le terrain, il fait bien les choses. Et donc, si vous souhaitez investir du temps, de l'énergie, parce que vous en avez, dans cette œuvre missionnaire, eh bien, mettez s'il vous plaît votre nom et prénom sur cette fiche, email portable, téléphone fixe, et éventuellement des remarques, n'importe lesquelles, tout ce qui vous passe par l'esprit et pensez être utile à ce projet. Il y aura une suite, pour l'instant je ne dévoile pas la suite, bien sûr vous serez mis à contribution et interpellés. Les jeunes peuvent aussi s'impliquer, je ne m'adresse pas qu'aux anciens, entre guillemets, ceux qui ont déjà une certaine expérience dans l'église, les jeunes aussi sont priés de s'impliquer. Et pourquoi pas les personnes plus âgées, si leurs forces leur permettent. Et si vous ne voulez pas vous impliquer personnellement, vous pouvez toujours mettre des remarques. C'est un projet qui ne vous convient pas pour X raisons. Laissez vos remarques, nous en tiendrons compte. Merci à la sortie, dans quelques instants, de mettre ces coupons dans la corbeille qui est prévue à cet effet. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire dans une semaine de prière ? Alors, nous nous mobilisons pour la mission. Alors, c'est le dernier numéro d'Adventist World. Il est disponible à la sortie sur votre droite, pour ceux qui aiment le lire. Il est centré sur la mission, donc la prédication du message des trois anges. Adventist World, d'août 2015, il vous attend. Il y en a une quarantaine d'exemplaires. C'est un par famille, s'il vous plaît. Hein. Voilà, pour que tout le monde puisse en disposer et le lire. La mission, on se recentre sur la mission, c'est ce qu'il nous faut, unis ensemble pour accomplir la mission. Et cette mission, comme j'ai eu l'occasion de le prêcher il y a quelques sabbats, elle a Christ au centre. Toutes nos croyances, tout ce que nous vivons, ce que nous partageons est centré sur Christ. D'accord ? Ce que je viens de dire ce matin n'efface pas ce que j'ai dit il y a quelques semaines. Tout est centré sur Jésus-Christ. Si ce n'est pas lui qui est mis en avant, on a tout faux. Donc le but aujourd'hui, c'est de multiplier le nombre de disciples du Christ qui soient des témoins du Christ et en même temps qui portent le nom d'Adventistes du septième jour. Et cette opération INEA, implantation d'une nouvelle église adventiste, a pour objectif de multiplier le nombre de disciples du Christ et témoins du Christ. Oui, disons-le, Adventistes du septième jour, n'ayons pas honte du nom que Dieu nous a donné, hein, qu'il a en quelque sorte, oui, à poser sur l'église, pour aller de l'avant. Il faut un peu de courage hein, pour aborder ces sujets-là aujourd'hui. Je le reconnais. D'accord ? À chacun de prendre sur soi aussi. Mais il faut du courage pour dire aujourd'hui, sur son lieu de travail, je suis adventiste du septième jour. Qu'est-ce que... ça veut dire quoi ? Alors déjà, il y a un « iste » à la fin. Et pourquoi il y a besoin de rajouter du septième jour ? Oui. On est dans la dynamique. Qu'on le veuille ou non, cela sera prêché au monde entier. Et le Seigneur reviendra quand les trois messages, plus quatre, hein, puis le quatrième, auront fait le tour du monde. C'est-à-dire que lorsque ces trois messages seront devenus en réalité un cri. Et nous sommes dans cette stratégie actuellement, dans ce jeu stratégique, où il nous faut avancer pied à pied et gagner du terrain. Le Seigneur revient. Amen. Amen.